Lorsque nous regardons la manière où les informations nous arrivent de tous les côtés, nous ne pouvons pas rester ou passer à l'info d'après sans être interpellés. Bien souvent, quand on regarde les informations, on voit qu'on passe d'une mauvaise information, d'une information quand même terrible, horrible, et tout de suite après, on nous met quelque chose de joyeux. Et après, on repart avec quelque chose, c'est pour adoucir la pilule, hein, pour ne pas rendre trop lourd, pour pas... Et à quelque part, moi, je me dis, Seigneur, on commence à devenir insensible à la réalité. Parfois, la réalité nous dépasse et on pense que ça, ça arrive ailleurs, jamais chez nous. Ça ne peut pas arriver parce que ce n'est pas possible. Il y a un conflit, ben c'est ailleurs, ce n'est pas chez nous. Mais le jour où ça frappe la porte de notre foyer, on se dit, Seigneur, mais comment est-il possible ? On a prié pour la paix. Mais comment peut-on finalement espérer la paix dans le monde quand le monde refuse le Dieu de la paix ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier pour la paix, mais pour la paix dans les cœurs. Habacuc est un homme de prière. Habacuc est un prophète qui reçoit une parole, une pensée de la part de Dieu qui touche les hommes et les femmes de sa génération. Mais quand nous lisons, nous nous rendons compte que nous avons les mêmes problématiques. Et ce qui m'a interpellé, c'est la prière d'Habacuc. Alors j'aimerais ce soir m'entretenir avec vous sur quelques versets du livre d'Habacuc, chapitre 3. On va faire une première lecture, Habacuc, chapitre 3, versets 1 et 2. Pardon. Habacuc, chapitre 3, versets 1 et 2. Prière du prophète Habacuc sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai de la crainte, Éternel, devant ton œuvre. Accomplis-la dans le cours des années. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Amen. Quelle prière ! Quelle prière ! Si on lit la parole de Dieu dans sa totalité, on voit qu'il y a toujours une volonté de Dieu d'avertir, d'interpeller, de préparer les cœurs, de les appeler finalement à revenir à lui. D'ailleurs, si nous regardons Habacuc chapitre 2, versets 2 à 4, on voit les paroles de Dieu. Et vous regardez la prophétie, parce qu'en effet, Habacuc dit « J'ai entendu ce que tu as annoncé ». Et au verset 2 à 4 du chapitre 2, il est dit « L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée. Elle n'a pas, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Entre guillemets, celui qui est justifié par la foi vivra. Combien est important pour nous d'entendre la parole de Dieu, et souvent nous citons le livre de la Révélation, l'Apocalypse, qui nous parle non pas d'une fin funeste, parce qu'on pourrait se dire ben, c'est apocalyptique, c'est horrible à lire, mais en réalité il nous décrit ce que le monde est en train de faire, de vivre, et la manière où les choses vont se passer. Mais en même temps, l'avertissement de la part de Dieu pour l'Église, la lettre aux Églises, la manière où Dieu agit pour que les hommes et les femmes du monde entier puissent venir à lui, être sauvé, être amené finalement là, dans ces nouveaux cieux, nouvelle terre. La parole de Dieu nous avertit sur beaucoup de choses et il est important pour nous de prendre la parole de Dieu dans sa totalité, mais aussi être conscient des temps qui sont les nôtres. Habacuc recevra une parole de Dieu et lui dit « Écris-la afin qu'on puisse la lire couramment, qu'elle soit compréhensible et lisible par tous. » La parole de Dieu, c'est le livre le plus édité et le plus répandu au monde. mais combien la lisent? Combien finalement se posent pour pouvoir comprendre l'avertissement de Dieu? Habacuc chapitre 2, versets 9 à 20, on voit qu'il y a des choses particulières. Vous verrez que les mêmes avertissements qui étaient donnés pour la génération d'Habacuc, elles sont encore valables aujourd'hui. Au verset 9, il dit « Malheur à celui qui, pour sa maison, se taille un profit malhonnête. » Ça arrive encore aujourd'hui? « Afin de faire son nid sur les sommets pour préserver de l'atteinte du malheur. » Il pense à lui, tant pis pour les autres. Versets 12 à 14, « Malheur à celui qui construit une ville dans le sang, qui fonde une cité dans le crime. » Waouh, quelle parole! Au verset 14, il dit, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. » La vérité de Dieu, tôt ou tard, va sortir. Et tout ce qui est caché va être dévoilé. Versets 15 et 16, « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton poison et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Tu t'es rassasié de honte plutôt que de gloire. » Bois aussi toi-même et mets-toi à nu, la coupe de la droite de l'Éternel retournera vers toi, honte sur ta gloire. Celui qui essaye de s'élever au détriment des autres, en se manquant des autres, en les mettant dans des conditions qui ne sont pas celles que honore en effet. Malheur à celui qui, verset 19, qui dit au bois, lève-toi, et à la pierre silencieuse, réveille-toi. Qui se fait des idoles. Habacuc se sent concerné par ce qu'il vient d'entendre de la part de Dieu et ne peut pas s'empêcher d'être terrifié par le jugement de Dieu et il exprime sa crainte sans se cacher. Il dit « Seigneur, Seigneur, accomplis-la dans le cours des années. Oui, dans le cours des années, fais-la connaître. » Il ne dit pas à Dieu « Non, ne le fais pas. » Vous savez, si on commençait à prier pour dire au Seigneur, ne fais pas ce que tu as dit dans l'Apocalypse, on peut prier. Mais Dieu nous dit, mais vous ne recevrez pas parce que vous demandez mal. C'est pour assouvir vos propres désirs et non pas la volonté de Dieu le Père. Et là, dans cette histoire, Habacuc, il comprend la pensée de Dieu et il dit, Seigneur, c'est terrible ce qui va se passer. C'est horrible ce qui va se passer. Rien ne peut empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il dit, j'ai de la crainte, Éternel, devant ton œuvre. J'ai de la crainte. Accomplis-la dans le cours des années. La crainte d'Habacuc ne lui empêche pas d'accepter ce que Dieu fait. Et je crois que nous aussi, on doit apprendre à accepter ce que Dieu fait. La manière où Dieu interpelle les peuples, les nations. Certes, il y a des choses terribles. Mais par ces choses terribles, il y a aussi des gens et des hommes et des femmes qui finalement se réveillent et se disent « Mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça, je ne peux pas accepter de devenir cela. J'ai besoin de trouver Dieu. J'ai besoin de trouver le chemin qui amène à l'Éternel. » La crainte ne lui empêche pas non plus d'exprimer son espérance en Dieu, car il sait que la parole de Dieu, elle est claire, non ? Exode chapitre 34, verset 6. Qui dit l'Éternel passa devant lui en proclamant l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, long à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. La crainte ne lui empêche pas d'exprimer son espérance en Dieu. Et je crois qu'on ne doit pas avoir peur d'exprimer notre espérance en Dieu. Est-ce que Dieu peut changer les cœurs? Autrement, ça serait inutile d'être là. Si on n'avait pas cette espérance, si on n'avait pas compris, saisi finalement cette volonté de Dieu d'agir au-delà de ce qui pourrait sembler une solution momentanée. Imaginez un instant d'avoir un bouton sur lequel vous pressez. Vous savez, comme l'ordinateur reset et remet tout à zéro. On recommence tout. Alors que l'ordinateur, il s'est bloqué, il s'est coincé, ça n'avance plus, hop! Ah, ça serait magnifique de pouvoir remettre les compteurs à zéro et de faire repartir tout le monde gentil. Tout fonctionne bien. Hein ? Vous allez dans des bureaux et des fois c'est bloqué, vous ne pouvez pas avoir les documents. Tac, petit bouton. Et après tout fonctionne. Ça serait le bouton magique. Hein ? Et je pense qu'on serait tous avec le doigt dessus. Mais ça va fonctionner jusqu'à la prochaine fois. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est le cœur. Et tant que le cœur n'est pas changé, le problème n'est pas résolu. Soyons convaincus du fait que Dieu ne prend pas plaisir à punir les hommes. Prenons aussi conscience que chacun est responsable pour ses propres actes, et ses propres actes le condamnent. Mais aussi, par une véritable repentance et changement de vie, il peut recevoir la grâce. C'est ça que nous devons espérer. Alors, Habacuc, il fait appel à Dieu. Et je pense ce soir, nous sommes là aussi, nous, pour faire appel à la miséricorde de Dieu. Dieu peut changer le cœur. Changer le cœur de ceux qui sont aujourd'hui dans la colère, dans la haine, dans l'alcool. Combien de fois j'ai pu voir des hommes et des femmes qui ont été libérés de l'esclavage de leur passé. Libérés de l'esclavage de leur passé. Un jour, une femme qui avait connu la prostitution, la drogue, a franchi la porte de l'église en demandant un entretien, en m'expliquant comment elle était en train de mourir. Et finalement, quelqu'un l'a sortie, l'a ramenée aux urgences et a dit « Tu as besoin de changer de vie. » Et cet homme, il n'était pas converti. Mais il avait compris et il donnait un conseil à cette femme alors que lui, il avait besoin du même conseil. Mais c'est clair que le lieu où cette femme était, j'aurais vu mal un chrétien y être. Non ? Mais Dieu a permis que malgré tout, cette âme puisse entendre quelque chose qu'elle avait besoin de réaliser. Et en étant sortie de l'hôpital, elle s'est dit, je dois changer de vie. Et finalement, elle a donné son cœur au Seigneur, a donné sa vie au Seigneur. Elle a changé de vie parce que Christ est capable de tout transformer. Béni soit Dieu. Il y a encore des personnes qui ont pu vivre aussi, malheureusement, dans la violence et qui ont fait de la prison et la manière où Dieu a changé leur cœur. Transformé alors qu'ils étaient mauvais et méchants, Dieu en a fait des hommes et des femmes qui aujourd'hui parlent de l'amour de Dieu. C'est étonnant pour ceux qui l'ont connu avant. C'est étonnant pour ceux qui savent de la manière où il avait vécu avant. Habacuc dira, j'ai de la crainte éternelle devant ton œuvre, mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Seule la vie de l'esprit peut nous conduire dans la véritable sensibilité spirituelle pour le sort des perdus. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut animer encore ce soir notre cœur à prier dans la bonne direction. Parce que si on voyait les personnes par ce qu'ils sont et par ce qu'ils font, on serait plus tenté de dire « Seigneur, fais table rase. » Recette. Sauf que si Dieu fait recette, il l'a fait une fois. Il a fait recette et il y a beaucoup d'eau qui est sortie. Hein ? Il n'y a que une arche avec une famille. Et regardez, malgré tout ça, le monde, il en est où aujourd'hui ? Voire même pire. N'est-ce pas? Mais Dieu a fait une promesse, il ne détruira plus par les eaux. Et il tient sa promesse. Mais néanmoins, il est question pour nous de dire, Seigneur, dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Seule une profonde connaissance de Dieu et de sa parole peut nous conduire à prier et accepter sa volonté en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Jésus savait ce qu'il devait payer à la croix. Lorsqu'il s'est retrouvé à ce moment dans le jardin de Gethsémané, alors qu'il implorait le secours de Dieu, il implorait la grâce de Dieu, il implorait l'amour de Dieu. L'amour de Dieu était là. La grâce de Dieu était là. La preuve en est, c'est que Dieu a envoyé un ange pour le soutenir. Mais néanmoins, il fallait que sa volonté s'accomplisse. Pour qui ? Pour qui ? C'est trop facile de dire pour nous. Pour moi. Et quand je le considère, le prix que Christ a payé pour moi, je ne peux pas faire autrement que de regarder les autres avec le regard de Christ. Et dire Seigneur, aie compassion. La compassion dont il est question n'est pas naturelle dans l'homme, mais c'est le fruit d'une profonde relation avec le Sauveur. De la même manière où Jésus dira à la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça doit être aussi nos entrailles de miséricorde, celles qui viennent de la part de Dieu, qui doivent nous conduire aussi à regarder les autres de la même manière. La compassion dont il est question n'est pas basée sur une philosophie humaniste ou sentimentaliste, mais sur la vérité qui découle de la parole de Dieu, de sa connaissance, ainsi que de son autorité. Il dira, mais dans ta colère, souviens-toi ta compassion. Alors nous, on demande la compassion de Dieu pour ceux qu'on aime. C'est vrai ou pas? On demande la compassion de Dieu pour ceux qui souffrent. Mais on peut demander aussi, et je crois que nous avons le devoir, de demander la compassion de Dieu pour tous les hommes. Habacuc, il avait compris alors qu'avant il se plaignait et il pointait le doigt sur tout ce qui n'allait pas. Nous, heureusement, ça ne nous arrive jamais. On n'a jamais l'œil sur ce qui ne va pas, on ne se plaint pas de ce qui ne va pas. On a un regard très positif sur le monde. Hein? On n'ose jamais dire à Dieu, ah si seulement tu pouvais, ah si seulement je pouvais avoir une heure l'autorité. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah si j'étais président. Je lui ai dit, même si tu étais président, tu ne pourrais pas changer le monde. Hein? C'est vrai ou pas? Alors que nous, on fait des choses parfois en disant ça, mais si tu touches à ça, qu'est-ce que ça produit? Finalement, qu'est-ce que ça produit? Le Seigneur sait où il doit toucher. Le vrai bouton reset, ce n'est pas dans le monde. C'est dans mon cœur, comme dans le tien. Et le Seigneur touche le jour où toi tu dis, Seigneur, fais reset dans ma vie. Change tout, Seigneur. Remets les choses à nouveau. Enlève ce qui ne va pas, Seigneur, tout ce qui est virus. Hein, Seigneur, tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui m'a hameçonné, hein, disent en informatique. Hein, le péché qui a pu finalement m'amener, m'attacher comme un poisson, hein. À l'hameçon, Seigneur, délivre-moi. Mais délivre aussi, Seigneur, ceux qui encore sont malheureusement victimes de ce système-là, Seigneur. Est-ce qu'on a le droit de prier que Dieu ramène des captifs? Est-ce que vous le demandez? Mais imaginez que demain, pour une raison qu'on ne comprend pas, tout de suite, on la comprend après, vous avez un bus qui s'arrête. C'est des prisonniers. Leur bus ne peut pas avancer. On a besoin de les faire rentrer quelque part. On dit, bah écoutez, on les fait rentrer à l'église. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, ils s'installent où il y a de la place. Hein. À côté de toi, il y a de la place. Hein. Ah, mais je ne sais pas, je vais changer de place. Je vais me mettre à côté de Marc. Eh non? Dieu a prévu que tu sois là parce que la personne qui sera à côté de toi a besoin qu'à ce contact, quelque chose se passe dans son cœur. Et que l'amour que Dieu a mis dans ta vie, la compassion que Dieu a mis dans ta vie, se transmette. Tu puisses lui transmettre quelque chose de bon. Est-ce qu'on a envie de ça? Mais pour pouvoir transmettre, on a besoin de recevoir. Alors on va prier ensemble. On va dire, Seigneur, encore dans ta grâce ce soir, remplis-nous de ta compassion. Et Seigneur, dans ta colère, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi encore des hommes. Sauve-les, Seigneur. Donne encore du temps, Seigneur. Et Seigneur, certes, prions pour nos enfants, prions pour nos familles, prions pour nos amis. Que la grâce et la miséricorde de Dieu puissent toucher leur cœur et les changer profondément comme Dieu l'a fait pour nous. Et il continue de le faire. Amen.